Scoop. Alors voilà, nouveau cahier, montre 15. Bon, on va commencer avec la préface. Est-ce que vous avez le cahier? C'est sur le site Namorata.
Oui. Moi, je l'ai fermé. Je l'avais tout à l'heure, mais je l'ai fermé. Je vais le
OK.
reprendre.
OK.
Alors.
Alors, j'en ai lu un petit bout. Ça semble un texte assez intense. Plus intense que l'autre, je pense, avant. Mais ça, on verra. Alors, Ananda, est-ce que tu voudrais lire?
Oui, bien
Attends
sûr, c'est
minute,
ça,
minute.
voilà.
Ouais. Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo
Om
bhagavate
namo
vasudevaya.
bhagavate
Om
vasudevaya.
namo
Om
bhagavate vasudevaya.
namo bhagavate
Om namo
vasudevaya.
bhagavate vasudevaya.
Shri Prabhupada ki jai.
Jai.
Jai. Hari Hari Bol.
Allez, allez, bon.
Alors,
La
allons-y.
préface, c'est ça?
Oui,
Parfait.
s'il vous plaît.
Préface. Chères lectrices et lecteurs, c'est avec grand plaisir que nous vous présentons la présente étude du mantra 15 de la Sri Ishopanishad. Vous y trouverez plusieurs passages extraits des livres de Srila Prabhupada. Au besoin, vous trouverez aussi des traductions libres de transcriptions de conférences ou de classes prononcées par sa divine grâce à ses Bhaktivedanta Swami Prabhupada, notre bien-aimé maître spirituel, Acharya, fondateur de la Société internationale pour la conscience de Krishna, ISKCON. Le mantra 15 de la Sri Isopanishad est une simple prière du dévot au Seigneur, doter le voile de radiance afin qu'il puisse voir son vrai visage. Un mantra important en son genre qui plonge en des subtilités et des explications quant à la réalisation de la vérité absolue en trois étapes, à savoir celle du Brahman impersonnel, du Paramatma, l'âme suprême omniprésente, et finalement de Bhagavan, Dieu, la personne suprême originelle, en sa pleine personnalité ainsi que ses pleines énergies. En ce qui a trait à Dieu, la personne suprême, trois chapitres entiers tirés de l'enseignement du Seigneur Chaitanya, Teaching of Lord Chaitanya, font acte d'innombrables formes du Seigneur, tout aussi puissantes les unes que les autres. On y décrit aussi toutes les catégories d'avatara. Ceci pour nous donner une idée d'ensemble des formes incalculables émanant de Krishna, qui lui est Dieu dans sa forme originelle. Cette forme même à l'origine de tout ce qui puisse exister, la cause de toutes les causes. Le présent cahier de cours comporte plus que jamais plusieurs classes de Srila Prabhupada qui devraient ravir le cœur de nos lecteurs et lectrices francophones. Au passage, veuillez nous pardonner nos quelques maladresses en matière de traduction, car en fin de compte, l'important, c'est le message. Nous croyons que l'étude de ce mantra a pouvoir d'inspirer une humilité accrue face au Seigneur suprême, ce qui devrait s'avérer une raison de plus pour s'abandonner à ses pieds pareils au lotus. Si tel est le cas, nous considérons le présent cahier comme ayant contribué dans cette veine, la preuve en étant indubitablement le chant renouvelé sans cesse de ses saints noms. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Merci infiniment de votre intérêt soutenu, votre humble serviteur, Prabhavikraladas,
Bon.
ACBSP.
Allez, allez, bon.
Allez,
Est-ce qu'il y a
allez, bon.
des questions, des commentaires?
Hâte de plonger dedans.
Good. C'est bon signe. Alors voilà, on va se plonger dedans. Le mantra 15 de Sri Upanishad. Virginie, est-ce que tu voudrais lire, s'il vous plaît?
La Sri Isopanishad, par sa divine grâce à ses Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya fondateur de la Société internationale pour la conscience de Krishna. Mantra 15.
Iran Mayena Patrinya Satya Satyas Siapihityam Muktam
Mukam.
Mukam Tat Dvam Pushyan Apavritnyu Satya Dharmaya Drishitaye. Iranyamanyena, par une radiance dorée, Patrenya, par un voile éblouissant, Satyasya, de la vérité suprême, Api Itam, couvert, Mukam, le visage, Tat, ce voile, Dvam, ta personne, Pushyam, ô toi qui maintiens, Apavrinyu, et la bonté dotée, Satya, pur, Dharmaya, au Bhakta, Drishityaye, pour montrer. Ô mon Seigneur, maintien de toute vie, ton éblouissante radiance me cache ton vrai visage. Enlève, je t'en prie, ce voile de lumière et révèle-toi à ton pur dévot. Teneur et portée. Dans la Bhagavad Gita 14.27, le Seigneur décrit ainsi l'éclatante lumière Brahmajyoti irradiant de sa personne. Brahmanyohi pratishyatal taham amritasya sya avyayasya cha sasvatasya cha dharmasya shukasya Ikantikashyaha, ça. Je suis la base du Brahman impersonnel, lequel est immortel, impérissable, éternel, et constitue le principe même du bonheur ultime. Le Brahman, le Paramatma et Bhagavan sont les trois aspects d'une même vérité. Le Brahman en constitue l'aspect le plus facilement accessible aux spiritualistes néophytes. Lorsqu'il progresse, ce dernier prend conscience du second aspect de la vérité absolue, le Param Atma, puis il en réalise l'aspect ultime, Bhagavan. La Bhagavad Gita confirme encore cela dans le septième verset du chapitre 7, où Krishna dit qu'il est le concept ultime de la vérité absolue. Mataha parataram nanyata. Nanyat. Krishna est donc la source du Brahma Jyoti, ainsi que du Param Atma omniprésent. Un peu plus loin dans la Bhagavad Gita 10.42, il ajoute Atava Bahu Neitena Kim Gnyatena Tavar Juna Vishtabiyaham Idam Krishnam Ekam Shena Sito Jagat. Mais à quoi bon, ô Arjuna, tout ce détail? D'une part infime de ma personne, je pénètre et soutiens l'univers tout entier. Ce mantra de l'Upanishad, de l'Isopanishad, appelle donc le Seigneur Pushyan, l'ultime soutien. Car non seulement il soutient l'entière manifestation cosmique grâce à son émanation plénière, le Param Atma omniprésent, mais il maintient également le monde spirituel. Shri Krishna, la personne suprême, jouit d'une félicité spirituelle absolue. Ananda Mayo Vya Sat. Lorsqu'il descendit sur terre il y a 5000 ans, à Vrindavan, en Inde, tous ses divertissements depuis sa toute petite enfance débordaient de félicité transcendantale. Même l'anéantissement de monstres comme Aga, Baka, Putana et Pralamba n'était qu'un amusement pour lui. Il se divertissait dans son village avec sa mère, son frère et ses amis, et lorsqu'il jouait le rôle d'un espiègle petit chapardeur de beurre, il les remplissait tous d'une joie céleste. Sa réputation de chapardeur de beurre n'a rien de condamnable puisqu'il n'agissait ainsi que pour la joie de ses purs dévots. En fait, lorsque le Seigneur se trouvait à Vrindavan, toutes ses actions avaient pour objectif le plaisir de ses compagnons. Il a aussi créé ses divertissements pour attirer l'attention des philosophes desséchés et des contorsionnistes pseudo-adeptes du Hatha Yoga vers l'aspect personnel de la vérité absolue. Dans le Srimad Bhagavatam 10.12.11, Shukadev Goswami commente ainsi les divertissements d'enfance du Seigneur en compagnie des jeunes pâtres de Vrindavan. Itam Satam Brahma Shuk Anu Bhutya Dashyam Gatanam Para Deva Tena Maya Shritanam Nara Darakena Shakam Vidjaru Krita Punya Punjaha. Dieu, la personne absolue en qui les Bhaktas reconnaissent le Seigneur suprême, qu'ils adorent dans un service, dans un sentiment de service, que les Gyanis perçoivent sous la forme du Brahman impersonnel et béafique, que les matérialistes considèrent comme une personne ordinaire, jouer avec les jeunes pâtres de Vrindavan. Si ces jeunes pâtres pouvaient jouir de la présence du Seigneur, c'est grâce aux innombrables actes de piété qu'ils avaient accomplis au cours de leur vie précédente. Une relation particulière unie au Seigneur dans un sentiment d'amour transcendantal, chacun de ces purs dévots. Cette relation peut s'exprimer de 5 manières différentes. Santa, relation neutre ou passive. Dashya, relation unissant serviteur et maître. Shakya, relation d'amitié. Vatshalya, relation unissant parents et enfants. Et Madhurya, relation d'amour conjugal. Il est dit que le Seigneur ne quitte jamais Vrindavan. Comment alors veille-t-il au maintien de la création? La Bhagavad Gita 13.14-18 répond en disant que Krishna pénètre partout dans l'univers matériel sous sa forme de Paramatma. Le Seigneur ne s'occupe pas personnellement de la création, du maintien et de la destruction de la manifestation cosmique. Il y veille indirectement par l'entremise du Paramatma, son émanation plénière. Tous les êtres sont des atmas, âmes spirituelles, et l'atma qui domine tous les autres, est le Paramatma, l'âme suprême. Ce système menant à la réalisation de Dieu est une grande science. Les Sankhya yogis, matérialistes, ne peuvent canaliser dans leur méditation les 24 éléments de la nature matérielle, car ils ne savent presque rien du Seigneur. Le Purusha et les spiritualistes impersonnels, eux, sont détournés de la vision de Dieu par son éclat éblouissant, le Brahma Jyoti. Or, la vérité absolue n'est réalisée dans tous ses aspects que par celui qui sait voir non seulement au-delà des 24 éléments matériels, mais aussi au-delà de la radiance du Brahma Jyoti. C'est pourquoi dans l'Ishopanishad, on prie le Seigneur d'enlever le voile éblouissant, Hiranyamaya Patra, qui cache sa forme personnelle. À moins d'ôter ce voile, il nous est impossible de percevoir le vrai visage de la personne divine et de réaliser dans sa plénitude la vérité absolue. Le Paramatma, l'âme suprême, sise au cœur de chaque être, est l'une des trois émanations plénières de la personne suprême. Les Vishnu Tattva, réunis sous le nom de Purusha Avatara, on l'appelle aussi Kshirodakashai Vishnu, et il est le Vishnu de la triade Brahma, Vishnu, Shiva. Garbo Dakasai Vishnu, l'âme cosmique suprême, est la deuxième émanation plénière. Au-delà de ces deux Vishnu Tattva se trouve Karano Dakasai Vishnu, le créateur de tous les univers. Le yoga apprend à ceux qui écoutent sérieusement la science spirituelle à percevoir ces Vishnu Tattva après s'être élevé au-delà des 24 éléments de la nature matérielle. Tandis que l'étude de la philosophie empirique les aide à réaliser le Brahmajyoti impersonnel. La Bhagavad Gita 14.27 atteste que le Brahmajyoti est la radiance émanant du corps transcendantal de Krishna. Et la Brahma Samhita 5.440 le confirme ainsi. Yashya Prabha Prabhavato Jagad Andakoti Kotich Asesya Vasudadi Vibhuti Binnam Binnan Tad Brahma Nikshkalam Anantam Asheshya Bhutam Govindam Adipurushyam Tam Aham Bhajami. Il existe de par les millions d'univers d'innombrables planètes et chacune d'elles est différente des autres en raison de sa constitution cosmique. Mais toutes se trouvent seulement dans un coin du Brahmajyoti. Ce Brahmajyoti n'est que la radiance émanant du corps de la personne suprême Govinda, à qui je voue mon adoration. Plusieurs mantras de la Mundaka Upanishad 2.2.10-12 donne encore d'autres détails sur le Brahmajyoti.
Ok, sans que le sanskrit, s'il vous plaît.
Au-delà de l'enveloppe matérielle, dans le royaume spirituel, se trouve la radiance infinie du Brahman, qui n'est aucunement souillée par la matière. Cette lumière blanche et éclatante est pour les spiritualistes la lumière d'entre les lumières. En ce royaume, il n'est nul besoin de la clarté du soleil ou de la lune, du feu ou de l'électricité. En vérité, tous les moyens de s'éclairer dans l'univers matériel ne sont que le reflet de cette lumière suprême. Ce Brahman est partout, devant, derrière, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au-dessous, au-dessus et en dessous. En d'autres termes, sa radiance illimitée s'étend aussi bien dans les cieux matériels que par les cieux spirituels. Ce mantra de la Shri Upanishad est donc une humble prière adressée au Seigneur pour qu'il écarte le voile du Brahmajyoti et nous permette de voir son vrai visage. La connaissance parfaite consiste à connaître la source du Brahman, Shri Krishna. Elle est contenue dans des écritures comme le Srimad Bhagavatam qui élabore en détail la science de la relation de Dieu. De la réalisation de Dieu, pardon. Srila Vyasadeva, son auteur, y établit que la vérité absolue peut être perçue sous la forme du Brahman, du Paramatma ou de Bhagavan selon le degré de réalisation de chacun. Mais jamais il ne décrit la vérité suprême comme étant le Jiva, le simple être vivant. Celui-ci ne doit jamais être considéré comme la vérité suprême et toute puissante. S'il l'était, quel besoin aurait-il de prier le Seigneur pour qu'il ôte son voile éblouissant et montre son vrai visage? En conclusion, on réalise le Brahman impersonnel lorsqu'on ignore les diverses énergies de la vérité absolue. Et on réalise le Paramatma lorsque l'on prend conscience de ses énergies matérielles tout en ne connaissant pas ou très peu ses énergies spirituelles. Ces formes de relation, de réalisation de la vérité absolue sont donc toutes deux incomplètes. Mais lorsqu'on est pleinement réalisé, après que le Seigneur a enlevé l'Hiranmaya Patra, le voile éblouissant, on comprend que Krishna, Vasudeva, est tout, Vasudeva Sarvam Iti, il est à la fois le Brahman, le Paramatma et Bhagavan. Krishna ou Bhagavan est la racine. Et le Brahman et le Paramatma sont ses branches. À ces trois degrés de réalisation correspondent trois catégories de spiritualistes. Les Gyanis, les Vyajnis, les Gyanis, ceux qui révèrent le Brahman impersonnel. Les Yogis, ceux qui révèrent le Paramatman, et les Bhaktas, les dévots du Seigneur Krishna. La Bhagavad Gita 6.46-47 fait une analyse comparative de ces trois catégories et précise que celui qui cultive la connaissance védique, le Gyani, est supérieur à l'homme ordinaire qui n'agit qu'en vue de jouir des fruits de ses actes. Mais le yogi surpasse le gyani, et de tous les yogis, celui qui sert constamment le Seigneur de tout son être, le bhakta, est le plus grand. En résumé, le philosophe est plus évolué que celui qui peine pour quelques bienfaits matériels. Le yogi est supérieur au philosophe et le bhakti yogi, celui qui sert constamment le Seigneur, est le plus élevé de tous. Et c'est vers cette perfection que nous guide la Shri Isopanishad.
Jai, merci beaucoup.
Hare Krishna.
On nous
Pardon pour
le...
les petites erreurs.
Pardon?
Je disais pardon pour les petites erreurs.
Ah, y a rien, non. C'est pas grave. Om Gyana Timirandasya Gananjana Sadakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, ce mantra est une prière d'un dévot qui demande justement à Krishna, même s'il ne le voit pas, d'enlever cette radiance éblouissante afin qu'il puisse voir son vrai visage, Alors, Krishna, dans la Bhagavad Gita, dit, je ne me révèle pas, je ne me manifeste pas aux personnes qui sont pas dévouées à lui. Alors Krishna a le contrôle complet à qui il se révèle et à qui il ne se révèle pas. Et ça demande un effort personnel pour justement arriver à progresser spirituellement parlant. Alors, la première étape dans la vie pour la vie spirituelle, ce serait quoi?
De servir le maître spirituel?
Ouais, mais avant ça, tout début.
Un désir de connaître le Seigneur.
Oui, ce qui se traduit par
service.
Oui, mais avant le service, poser des questions.
Ah, okay.
S'interroger. Qu'est-ce que la vérité absolue? Même à ça, le mot absolu, on peut l'enlever aussi. Alors, quelqu'un qui cherche la vérité, c'est pas exactement. Tu vois, avant de connaître, mettons, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, tous ces beaux écrits védiques, on était comme n'importe qui d'autre. On ne sait pas. On connaît rien. On est dans l'ignorance. Alors, on peut penser qu'on a une certaine forme de connaissance. Tu sais, on peut avoir des degrés universitaires ou je sais pas quoi. Mais, spirituellement parlant, on n'a rien. On a vraiment rien. Alors, ça prend un maître spirituel, un pur dévot de Krishna pour nous ouvrir les yeux, pour nous tendre la main, et laquelle main on accepte. Et puis, il faut être convaincu aussi. Alors, comment on devient convaincu? Est-ce qu'on devient convaincu du jour au lendemain? Ça dépend qui, là?
Ben oui, ça, justement, ça peut dépendre de qui, en fait.
Ça dépend de l'expérience aussi, ça dépend de comment ça se passe, le chemin. Mais, ouais.
Ouais, mais il y a un progrès.
Mais c'est ça.
C'est ça qui est important.
Exact.
Alors, pour certaines personnes, supposons qui ont déjà pratiqué la conscience de Krishna dans une vie antérieure et puis reviennent dans cette vie-ci, l'adoption de la conscience de Krishna peut être relativement facile. Et puis, c'est comme quelque chose de naturel pour eux autres. Pour d'autres personnes, ça peut être différent. Mais le processus demeure le même quand même. À savoir, c'est shravanam, c'est l'écoute des sujets transcendantaux. qui va faire la différence. Alors, le Seigneur Chaitanya disait que la semence de la dévotion doit être arrosée par l'écoute de ce qui a trait à Krishna. Alors, pour un dévot, comme on lit aujourd'hui ici, là, on n'a pas fini de lire parce que le cahier va se pencher sur chaque phrase de ce qu'on a lu aujourd'hui. Comme on fait d'habitude, là, on y va point par point. Alors, qu'est-ce qui est le plus captivant pour un dévot, d'après ce qu'on a lu aujourd'hui, en conclusion? Qu'est-ce qui est le plus captivant?
C'est d'avoir une description sur Dieu qu'on n'a pas, je dirais, habituellement. C'est le Seigneur. Il nous décrit beaucoup des qualités, des choses qu'il est, comment qu'il fait, tout ça, c'est captivant. Là,
tout oui, ça. C'est ça. Mais si je vous pose la question à l'envers, disons, il va étape par étape. La question, c'est qu'est-ce qui est le plus captivant? Deux points. Est-ce que c'est les brahmanes impersonnels? Est-ce que c'est les paramatma? Ou est-ce que c'est Bhagavan?
Ben, c'est Bhagavan.
C'est sûr que c'est Bhagavan. Alors, pour se faire plaisir, on peut étudier beaucoup, beaucoup de philosophie, mais en bout de ligne, où est-ce qu'on va aller se faire plaisir?
Dans les divertissements du Seigneur suprême, dans la connaissance, dans ce qui a été rédigé par Vyasadeva.
C'est ça. Alors, c'est pourquoi, alors, ce qui a été, qu'est-ce qui est la crème de ce que Vyasadeva a écrit?
Le Srimad Bhagavatam.
Le Srimad Bhagavatam. Et qu'est-ce qui est la crème dans le Srimad Bhagavatam?
La Bhagavad Gita?
Ben non.
Non?
Ben non, la Bhagavad Gita, c'est une œuvre à part.
Oui, oui.
Le Srimad
Bhagavatam. Oui, et la crème de la crème, ce sont le dixième chant, en fait.
J'ai envie de dire le chapitre, le dixième chant, ouais.
C'est le dixième chant du Srimad Bhagavatam.
Mais il faut être qualifié pour aller là.
Oui, il faut être qualifié, mais même si on n'est pas qualifié, qu'est-ce que Srila Prabhupada a fait?
C'est-à-dire?
Qu'est-ce que Prabhupada a fait, même si on n'est pas qualifié?
Il nous a rendu accessible la connaissance, en fait.
Oui, ça c'est sûr.
Et ça servit du prasad. Même si on n'était pas qualifié, nous, on mangeait du prasad.
Oui, mais on parle de, on se restreint à la littérature. On parle pas de prasad. Qu'est-ce que Prabhupada fait, même si on n'est pas qualifié?
Il nous a donné les directives se purifier, en fait.
Oui, il y a ça. Il nous a fait un grand cadeau. Il nous a donné les quatre principes régulateurs. Mais c'est pas ça principalement qu'il a fait. Pour nous aider à comprendre qui est Krishna et nous donner le plaisir de lire au sujet de Krishna, qu'est-ce que Prabhupada fait?
Il a traduit les livres.
Il a traduit les livres, mais lequel en particulier? Pour faire plaisir aux dévots? Que Prabhupada a jugé bon, pratiquement parlant, d'imprimer en 1970, avec la contribution de George Harrison.
Le nectar de la dévotion?
Non.
Le livre de Krishna?
Le livre de Krishna. Alors, même si personne n'est qualifié, disons, et ça c'est vite dit, là, tout le monde est qualifié dans la mesure où tout le monde sait lire, ça c'est parfait. Et tout le monde a des oreilles et avoir une attitude réceptive, ça c'est parfait. Alors, Prabhupada, il a traduit le livre de Krishna. Alors, c'est comme si Prabhupada a déjà prévu le coup d'avance, dans le sens que traduire mot pour mot le dixième chant du Srimad Bhagavatam, ce serait une œuvre immense. Parce qu'il y a 94 chapitres, si je ne m'abuse, dans le dixième chant. et y aller verset par verset, c'est très long. Et Prabhupada a traduit le Srimad Bhagavatam du premier chant au neuvième chant, un petit peu le début du dixième chant, et il n'a pas eu le temps de compléter la traduction du dixième, du onzième, du douzième chant du Srimad Bhagavatam. Mais, dès le départ, il a publié le livre de Krishna que Prabhupada dit, ça c'est un résumé des divertissements de Krishna.
D'accord.
C'est un résumé. Alors, c'est pas tous les détails, mais c'est un résumé. Et c'est suffisant pour, justement, créer un plaisir transcendantal d'écouter les divertissements de Krishna. Alors, c'est intéressant, dans ce qu'on a lu aujourd'hui, que Krishna s'est dit, dans ce que nous avons lu aujourd'hui, là, que tout ce que Krishna faisait, c'était pour faire plaisir à ses dévots.
Oui.
Et pour Krishna, même tuer les asuras, les démons, c'était une partie de plaisir aussi. Et aussi, ça nous fait prendre conscience de, comment on peut dire, l'omniscience et la toute-puissance et l'aspect Krishna est Yogeshwara, c'est-à-dire le maître de tous les pouvoirs mystiques. Alors, il peut faire ce qu'il veut, et pas juste Krishna, mais son émanation plénière, première de Krishna, c'est Baladev ou Balaram. Alors, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent si ça leur chante, s'ils le désirent. Alors, il y a un divertissement du Seigneur Balaram à un moment donné. Il y avait un démon qui est venu se, comment on peut dire, se mélanger au petit pâtre. Et à ce moment-là, les pâtres étaient en train de jouer. Le gagnant va être charrié sur les épaules du vaincu. Alors, et Balaram avait comme... Attends une minute, Balaram, oui. Il était sur les épaules d'un démon. Pralambasura, si je me souviens bien, là. Et ce Pralambasura, il a pris la forme d'un petit pâtre. Mais sa vraie forme, c'était pas un petit pâtre. Alors, tout d'un coup, à un moment donné, le poids se fait sentir. C'est Krishna ou Balaram qui a fait ça? Je m'excuse, là.
Je crois peut-être que c'est Krishna, hein? Non?
C'est Krishna. Oui, je pense que c'est Krishna, oui. Alors, Krishna devient de plus en plus lourd. Et c'est dit que Krishna est devenu aussi lourd qu'une montagne, là. S'il est lourd comme une montagne, la personne va être complètement aplati, mais est devenu assez lourd que l'autre a pris sa forme, une forme gigantesque qui allait jusqu'au ciel. Alors, Krishna, avec ses pouvoirs mystiques et sa toute-puissance, il a donné un bon coup sur la tête ou quelque chose. C'en était fini du démon. Et là, tous les habitants de Vrindavan, quand ils ne voyaient plus Krishna, où est Krishna, où est Krishna, ils ne le voyaient plus. Puis là, finalement, ils ont fini par le trouver. Alors là, c'était la joie, l'extase. Mais avant, la joie puis l'extase, c'était vraiment l'anxiété de ne plus voir Krishna. Alors ça, c'est les divertissements de Krishna. Krishna, il fait deux choses. Il fait plaisir à ses dévots. Et puis, il détruit les êtres démoniaques. Alors, Krishna, en faisant ses divertissements, c'est dit, ce qu'on a lu aujourd'hui ici, c'est pour attirer aussi les âmes conditionnées. Les âmes conditionnées sont attirées par quoi, elles? en ce qui concerne les littératures.
Alors, des histoires, des récits de fiction, des choses comme ça.
Oui, sont attirés par des littératures mondaines. Et pourquoi ils sont attirés par des littératures mondaines? Il y a une explication à ça qui est donnée par Srila Prabhupada. Parce que leur mental est impur. Alors, ils sont attirés par ces littératures-là. Et si leur mental est pur, quelle littérature va être attirée par? Par
Des
celle.
écrits, par cela, par ces écrits qu'on vient de citer là, en fait.
Par celles qui ont trait à Krishna.
À Krishna, Srimad Bhagavatam, livre de Krishna, les livres de Srila Prabhupada aussi qui sont.
Exactement.
Et il y en a
Alors,
beaucoup de petits livres en plus, il y a beaucoup de petits livres de Srila Prabhupada. Il
oui, il y a
y a une
beaucoup
grande
de.
littérature aujourd'hui. Quand dans le cours précédent, tu nous parlais des difficultés même d'avoir des livres, d'avoir accès à la connaissance au début du mouvement. Aujourd'hui, entre Internet et tous les petits livres, tous les petits pamphlets qui sortent régulièrement, il y a vraiment une matière à aujourd'hui. Et ça, c'est bien.
Ouais, aujourd'hui, toutes les facilités, là.
Il y a pour tous les niveaux.
Ouais, comme moi ici, j'ai un machin comme ça. Ben là, il est pas chargé parce que je l'utilise pas vraiment. Attends, on voit-tu? Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qu'ils appellent un livre Kobo, la compagnie qui fait les livres Kobo, Kobo Book. Alors, ça se plie comme ça, tu peux l'amener n'importe où tu veux, bon, à ta convenance. Et là-dedans, il y a tous les livres de Prabhupada. Moi, j'ai rien d'autre que ça. Et alors, ces livres-là, la collection pour aller avec les, ça, ils appellent ça des, on appelle ça donc. Des e-book readers, des lecteurs de e-book. Alors, les livres de Prabhupada en version e-book sont disponibles via le BBT ou peut-être d'autres services là, liés au dévot, au BBT. Et puis, tu achètes ça, là, tu payes un certain montant. Puis après, ben, tu peux le mettre sur un iPad ou un lecteur que tu peux avoir. Et puis, tu te promènes avec, t'as tous les livres dans ta
Wow,
main.
c'est bien ça.
T'es pas obligé d'avoir les livres physiques. Personnellement, je préfère, par expérience, les livres physiques.
Ouais, moi aussi.
Parce que c'est
C'est autre chose.
plus facile à lire.
Moi, c'est...
Et si, dans un, moi, je parle d'un point de vue des yeux.
Ouais.
C'est plus facile à lire du
C'est ce que j'ai
papier
dit.
que se concentrer indéfiniment sur quelque chose qui a une lumière en arrière, là.
Ben, ça use les yeux
Une
plus, en fait,
tablette
de lire.
ou un
Ouais.
écran, etc. Mais toutes ces facilités-là sont là pour les dévots d'aujourd'hui. Et,
C'est bien. Ça s'est bien développé, c'est une bonne chose.
ouais.
Que la technologie serve aussi à de bonnes choses, en fait.
Ouais, c'est ça. Alors, comme c'est dit aussi, tout ce qui existe, c'est l'énergie de Krishna. Il n'y a rien qui n'est pas relié à Krishna. Alors, même dans l'énergie matérielle, dans le monde matériel, on peut utiliser cette énergie-là pour la mettre au service de Krishna. C'est ça la beauté de la conscience de Krishna, c'est qu'il n'y a rien qui est vraiment matériel, c'est spirituel, via la conscience de Krishna. Alors ça, c'est merveilleux. Alors pour les dévots, même s'ils sont, disons, encore dans le monde matériel, en fait, ils sont pas dans le monde matériel, ils sont dans le monde spirituel, parce qu'ils sont absorbés dans des activités qui sont entièrement spirituelles. Par la grâce de Krishna, par la grâce du maître spirituel. Et comme Prabhupada disait, disons dans les débuts du mouvement, Prabhupada lui parlait, mettons, du temple de New York, puis il disait, ce temple-là n'est pas dans le monde matériel, il est dans le monde spirituel. Alors ça, c'est Vaikuntha Loka, même dans le monde matériel. L'atmosphère de Vaikuntha Loka, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de compétition maladive entre les individus, parce que tout le monde est content de vouloir, tout le monde cherche à faire plaisir à Krishna. Alors, et quand quelqu'un fait, quand un dévot fait mieux qu'un autre, les autres dévots sont contents. Pourquoi ils seraient pas contents? Ah, lui, il a fait mieux que moi. Je ne suis pas content. Mettons comme une compétition. Ah, moi, j'accepte pas ça. Moi, je vais faire mieux. Ou je veux faire mieux. Même s'il n'est pas capable de faire mieux, il va demeurer envieux. Ça, c'est matériel. Complètement matériel. C'est pas spirituel, ça. Alors, quand les dévots font bien, les dévots sont contents. Les autres dévots. Et ils demandent pas mieux que de rendre service à des dévots comme ça. Alors, dans les échanges entre dévots, il y a des échanges entre des dévots qui sont plus avancés que soi-même, des dévots pères, des dévots avec qui on se lie d'amitié, et des dévots moins avancés à qui on montre compassion et miséricorde en partageant avec ces dévots-là ce qu'on peut leur donner comme miséricorde. C'est ça la beauté de la conscience de Krishna, c'est qu'il y en a pour tout le monde, qu'on soit en haut, en bas, au milieu, il y a toujours quelque chose pour faire notre bonheur. Et il y a toujours quelqu'un dans la conscience de Krishna qui peut nous apporter quelque chose aussi. Même si on pense, même si on pourrait penser, ah, qu'est-ce que je vais apprendre d'un tel ou un tel? Non, c'est pas comme ça que ça marche. On peut toujours apprendre quelque chose de quelqu'un.
Normalement, pour un dévot, il ne doit pas penser comme ça.
Oui, il ne devrait pas. Mais,
normalement, on ne doit pas penser comme ça, parce qu'on apprend chaque instant, Krishna nous fait apprendre des choses, en fait. On grandit à chaque...
Oui, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde, parce que c'est le conditionnement matériel, c'est qu'on part d'une plateforme où on veut être le maître de tout et le maître de chacun. Alors ça, c'est le conditionnement matériel. Alors, avant d'arriver à la mentalité d'un dévot qui est pur, on peut dire, ben, il y a un bout de chemin, là. Il y a une certaine... Est-ce que c'est assez clair? Ça, c'est ce qu'on appelle la purification. Alors, quand on arrive dans le mouvement, là, on n'arrive pas avec cette purification-là, pour la plupart. Alors, c'est pour ça, des fois, comme Prabhupada dit, il écrit dans ses lettres, quand il parle dans ses lettres que les dévots occidentaux en particulier, ils ont encore l'attachement à se bagarrer, c'est pas le bon mot, c'est peut-être trop fort comme mot, mais à la chicane entre les dévots. Et Prabhupada n'en voulait pas de ça. Mais il savait que ça pouvait être là, entre les dévots. Alors, d'une fois, Prabhupada écrit à tel ou tel dévot, il va dire... Ah, il fait mention, il n'est pas arrivé à l'art de ne pas, justement, se chicaner avec les autres dévots. Et Prabhupada, lui survolait tout, lui. Lui était au-dessus de la mêlée, là. Alors, quand il pouvait voir, puis on l'a lu il n'y a pas longtemps, là, dans le cours précédent ou avant, ce dialogue entre Madhusrisha et puis l'autre dévot. Et il y a deux dévots qui veulent Siddharupa, deux dévots qui veulent servir Prabhupada, mais chacun plus ou moins dans sa façon à lui. Puis là, ben, il faut qu'ils s'accordent les deux pour coopérer. Puis Prabhupada, il veut que ça marche comme ça. Il voulait pas que les dévots se divisent entre eux autres. Parce qu'un pense que c'est comme ça que ça doit aller, ou l'autre pense comme ça que ça doit aller. Il doit avoir, comment on peut dire, un point de coopération entre les dévots pour l'amour de Prabhupada. Alors, on peut pas rester, disons, attaché à dominer. Ça, c'est le problème avec les âmes conditionnées, c'est le désir de dominer. Alors, je veux dominer. Alors, je n'entends pas, je ne vois pas les autres. Je pense juste à mon esprit de domination. Et puis, ça, c'est complètement anti-conscience de Krishna. Alors, dans le Bhagavad Gita, le chapitre 16, Bhagavad Gita, c'est décrit la mentalité démoniaque. Et dans cette mentalité démoniaque, la personne pense, ah, celui-ci est mon ennemi, tel autre est mon ennemi, et celui-là, je vais le tuer et je vais l'éliminer. C'est une mentalité démoniaque. Alors, la mentalité des dévots, c'est pas supposé être ça, là. Ça doit être complètement absent. C'est une mentalité où on apprécie les autres dévots. Alors, c'est pour ça, des fois, on peut lire sur Internet, des fois, il y a des dévots qui font des commentaires sur d'autres dévots, mais c'est pas drôle. Moi, personnellement, ça m'intéresse vraiment pas
Non.
de lire. Moi, aussitôt quand ça arrive comme ça, c'est bonsoir la visite, il est parti. Moi, ça m'intéresse pas du tout de prendre des partis. Ah, lui a raison, lui a pas raison. D'après moi, c'est ci, puis c'est ça. Non, c'est ça, no way. Ça ne m'intéresse vraiment pas. J'ai d'autres choses à faire que de me concentrer sur des choses comme ça. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut apprendre des livres de Prabhupada. Alors, pourquoi perdre son temps avec des discussions qui sont relatives? Ça va pas du... Il y a rien à prouver. Disons, sur un point de vue absolu, il y a pas de place pour la relativité là-dedans, non? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, alors on va continuer. Au module 1. Ananda, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, on
Ok,
t'entend bien.
parfait. Pushyan, Dieu l'ultime soutien. Dans la Bhagavad Gita 14.27, le Seigneur décrit ainsi l'éclatante lumière, Brahma Yoti, irradiant de sa personne. Brahmano hi pratishyataham amritasya via vyasyasya Sasvatasya Sadharmasya Sukashye Kanti Kantikasya Cha. Je suis la base du Brahman impersonnel, lequel est immortel, impérissable, éternel et constitue le principe même du bonheur ultime. Le Brahman, le Paramatma et Bhagavan sont les trois aspects d'une même vérité. Le Brahman en constitue l'aspect le plus facilement accessible aux spiritualistes néophytes. Lorsqu'il progresse, ce dernier prend conscience du second aspect de la vérité absolue, le Paramatma. Puis il en réalise l'aspect ultime, Bhagavan. La Bhagavad Gita confirme encore cela dans le 7e verset du chapitre 7 où Krishna dit qu'il est le concept ultime de la vérité absolue. Mataha para Taram nan nanyat. Krishna est donc la source du Brahma Jyoti ainsi que du Paramatma omniprésent. On peut, un peu plus loin dans la Bhagavad Gita 10.42, il ajoute « Atta va bahu naitena kim yetana yetena tarvajuna vishyata
beyam vishta byaham
vishta byaham idam krishtan krishtnam pardon ekam shena shito jagat. » Merci. Mais à quoi bon, ô Arjuna, tout ce détail? D'une part infime de ma personne, je pénètre et soutiens l'univers tout entier. Ce mantra de l'Ishopanishad appelle donc le Seigneur Pushyan, l'ultime soutien, car non seulement il soutient l'entière manifestation cosmique grâce à son émanation plénière, le Paramatma omniprésent, mais il maintient également le monde spirituel. 1.1. Dans la Bhagavad Gita 14.27, le Seigneur décrit ainsi l'éclatante lumière Brahma Jyoti irradiant de sa personne. Brahmano hi pratishyataam amritasya vyavyasyasha sasvatasya sadharmasya sukashyekantikasya cha. Je suis la base du Brahman impersonnel, lequel est immortel, impérissable, éternel et constitue le principe même du bonheur ultime. Voici le mot à mot que la teneur est portée du verset mentionné ci-haut. Brahmana du Brahma Jyoti impersonnel, hi, certes, pratistya, le repos, aham, je suis, Amritasya de l'immortel, Avyayasya de l'impérissable, Cha aussi, Sasvatasya de l'éternel, Cha et Dharmasya de la constitution intrinsèque, Sukasya du bonheur, Eikantikasya ultime, Cha aussi. Je suis la base du Brahman impersonnel, lequel est immortel, impérissable, éternel et constitue le principe même du bonheur ultime. Teneur et portée. Immortalité, éternité et bonheur constituent la nature du Brahman. Le Brahman représente la première étape de la réalisation spirituelle, le Paramatma, l'âme suprême, la seconde, et Bhagavan, la personne suprême, la réalisation ultime de la vérité absolue. La personne suprême englobe par conséquent le Brahman et le Paramatma. Nous avons vu au 7e chapitre que le Seigneur féconde la nature matérielle, la manifestation de son énergie inférieure, en y injectant des fragments de l'énergie supérieure. C'est ainsi que l'élément spirituel se manifeste dans la nature matérielle. Lorsque l'être conditionné par la nature matérielle entreprend de cultiver le savoir spirituel, il dépasse cet état matériel et parvient graduellement jusqu'au concept du Brahman. Parce qu'il a atteint cette étape, la première dans la réalisation spirituelle, le spiritualiste a déjà dépassé le niveau matériel. Mais il n'a pas pour autant encore parfaitement réalisé le Brahman. Il pourra, s'il le désire, se maintenir à ce niveau, puis peu à peu s'élever pour réaliser le Paramatma puis Bhagavan, Dieu, la personne suprême. Les écritures védiques nous en donnent de nombreux exemples, comme celui des quatre Kumaras qui réalisèrent le Brahman, la conception impersonnelle de la vérité, avant de s'élever graduellement jusqu'au service de dévotion. Mais il faut savoir que celui qui ne parvient pas à dépasser le niveau du Brahman, de la conception impersonnelle de la vérité absolue, risque de choir de sa position. Le Srimad Bhagavatam enseigne que celui qui parvient au stade du Brahman ne saurait posséder une intelligence parfaitement claire s'il ne s'élève au-delà et reste dépourvu de la connaissance de la personne suprême. Il encourra toujours le risque de choir de sa position s'il n'adopte le service de dévotion. Dans les textes védiques, il est dit « Radzo vei saa razam hi evayam labd Vanandi Bhavati. Celui qui parvient à connaître Krishna, Dieu la personne suprême, source intarissable de plaisir, connaît en vérité une félicité spirituelle absolue. Taittiriya Upanishad 2.7.1. Le Seigneur suprême possède pleinement les six opulences spirituelles qu'il partage avec le dévot qui l'approche, lequel, comme le serviteur du roi, jouit pratiquement des mêmes avantages que son maître. Ainsi, la vie éternelle, mais aussi une joie immortelle et intarissable, s'attache au service de dévotion, lequel inclut la réalisation du Brahman, c'est-à-dire l'immortalité, l'éternité. Qui s'absorbe pleinement dans la pratique du service de dévotion, possède déjà cette perfection. L'être vivant, bien que Brahman par nature, désire dominer l'énergie matérielle, ce qui cause sa chute. Par sa nature constitutive, l'être est au-dessus des trois gunas. Toutefois, dès qu'il est en contact avec la nature matérielle, il se prend dans les raies de la vertu, la passion et l'ignorance, et cherche aussitôt à dominer le monde de la matière. Mais qu'il pratique le service dévotionnel en pleine conscience de Krishna, et il transcendera automatiquement les gunas. Son désir illicite de devenir maître de la nature matérielle se dissipera. Il est donc essentiel de prendre part en compagnie d'autres dévots au service de dévotion, lequel comprend 9 aspects. Écouter les gloires du Seigneur, les chanter, s'en souvenir, etc. La fréquentation assidue des dévots et l'influence du maître spirituel effacent peu à peu le désir matériel de domination et nous permet de nous fixer dans la pratique du service d'amour sublime que l'on offre au Seigneur. Du 22e au 27e verset de notre chapitre, Krishna recommande cette pratique dont l'exécution est aisée. Il suffit en effet de servir constamment le Seigneur, de partager les reliefs sanctifiés de la nourriture offerte à la multi, de sentir les fleurs offertes à ses pieds pareilles au lotus, de visiter les lieux saints où se déroulent ces divertissements transcendantaux, de lire les ouvrages dans lesquels sont décrits ces différentes activités et ces échanges d'amour avec ses dévots, de toujours chanter ses saints noms, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, et d'observer les jours de jeûne commémorant ses apparitions et disparitions en ce monde, ainsi que celles de ses dévots. En se soumettant à de telles pratiques, on se détache entièrement de tout acte matériel. Celui qui peut ainsi pénétrer le Brahma Jyoti ou les différents aspects du concept du Brahman devient en qualité l'égal de Dieu, la personne suprême.
Jai, merci beaucoup.
Allez, Paul.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant au début de la teneur de portée. C'est dit ici, lorsque l'être conditionné par la nature matérielle entreprend de cultiver le savoir spirituel, il dépasse cet état matériel et parvient graduellement jusqu'au concept du Brahman. Et ça, c'est pas nécessairement un dévot de Krishna, ça, à cette étape-là. C'est simplement quelqu'un qui cherche. Puis à force de regarder à gauche et à droite, finit par comprendre qu'il y a autre chose que les activités intéressées de la vie matérielle. Alors, à qui on peut penser comme genre de personnes qui sont comme ça?
Je sais pas, les personnes qui vont à des places de prière ou des églises là, puis s'en vont là-bas pour demander au Seigneur de l'argent. Ils vont pas plus loin à connaître Dieu ou à servir Dieu, ils veulent du bien pour les autres là. Je veux pas nommer une comme des je sais pas comment ça s'appelle, les prêcheurs dans des gros centres de des arinas, là, les évangélistes, comme ils sont des milliers là, puis Il dit, you give money, God will give you money. Donner de l'argent, là, c'est ça ramasse de l'argent, mais il parle pas de Dieu, là. Il parle
ouais,
de
parle de
matériel,
Dieu jusqu'à,
matériel.
jusqu'à un certain point, selon leur entendement, ou selon qu'ils sont capables de tourner ça selon leur point de vue. Mais il y a plus loin que ça. Parce que sauf pratiquement parlant, ce genre de religion-là, c'est décrit dès le départ dans le Srimad Bhagavatam. C'est Kaitava Dharma. C'est une religion trompeuse. Kaitava veut dire tromper ou de la tromperie. Alors, là, on parle ici, là, ça va au-delà de ça. Alors, comme Krishna est dit dans la Bhagavad Gita, ceux qui ont déjà entrepris la poursuite de la réalisation spirituelle et qui n'ont pas achevé le succès, dans leur prochaine vie, ils vont pouvoir continuer. Et là, c'est Krishna qui dit ça. Ils sont naturellement attirés par les principes du yoga. Alors, les principes du yoga, là, c'est au-delà des activités intéressées. Alors, comme c'est dit ici, là, alors, ceux qui cherchent la vérité, alors tu peux avoir des bouddhistes, tu peux avoir des impersonnalistes, et simplement des personnes ordinaires, mettons, qui sont bien pratiquantes, catholiques, whatever, mais qui cherchent un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici, là? C'est dit ici, c'est lorsque l'être conditionné par la nature matérielle entreprend de cultiver le savoir spirituel, il dépasse cet état matériel et parvient graduellement jusqu'au concept du Brahman. Alors, ceux qui cherchent, mais qui n'ont pas encore Krishna, qui n'ont même pas encore la réalisation du Paramatma, mais vont arriver à un concept de lumière impersonnelle ou de vide, mais n'ont pas le portrait au complet. Alors, mais ils cherchent. Alors, ces personnes-là, là, comme c'est dit ici, l'être conditionné par la nature matérielle entreprend lorsque il entreprend de cultiver le savoir spirituel, il dépasse. Alors, dès que la personne commence à sérieusement s'enquérir, on peut prendre pour acquis, c'est dit ici, il dépasse cet état matériel et parvient graduellement jusqu'au concept du Brahman. Alors, mais par la grâce de Srila Prabhupada, nous donne tout d'un coup. Il nous donne la connaissance du Brahman, la connaissance du Paramatma et la connaissance de Bhagavan, Dieu, la personne suprême. Alors, il y a une grande différence entre, par exemple, lire les livres de Prabhupada, puis lire, par exemple, un livre d'un impersonnaliste, d'un gourou, mais qui est impersonnaliste. Alors, ils vont avoir ultimement, c'est la réalisation du Brahman impersonnel qui est visée. Mais Prabhupada, lui, c'est un pur dévot de Krishna. Il nous donne la connaissance et du Brahman, et du Paramatma, et de Bhagavan, de Krishna. Et le côté merveilleux, c'est que Krishna est la source du Brahman, du Paramatma, et il est lui-même la source de multiples formes de lui-même, des incarnations de Krishna, émanations plénières de Krishna, etc. C'est par la grâce de Srila Prabhupada ou un autre pur dévot de Krishna qui a cette philosophie Vaishnava qu'il enseigne, là, le portrait complet. Alors, lorsque le portrait est complet, qu'est-ce qui arrive? Si on a moindrement, disons, assimilé ou digéré comme il faut, comme il se doit, la philosophie Vaishnava, qu'est-ce qu'on fait?
On s'abandonne.
On s'abandonne. Si on s'abandonne, qu'est-ce qu'on fait?
On fait du service.
C'est ça. On s'engage dans le service de dévotion. Et on est bien content de le faire. Et on s'absorbe dans le service de dévotion. Il n'y a rien d'autre à faire. Il y a juste ça à faire. Mais quand la vision n'est pas, disons, 100% fixée, ou une compréhension, disons, vraiment, comment on peut dire, fidèle au concept dévotionnel, ben là, on en comprend un petit bout, puis on comprend un autre bout de faire d'autres choses que le service de dévotion. Mais si notre compréhension est assez bonne, on va vouloir s'engager, se tenir engagé dans le service de dévotion. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, on est vraiment chanceux d'avoir rencontré sur le Prabhupada dans ses livres, pour ne pas dire en personne. Mais même avoir rencontré Prabhupada en personne, c'est le genre de personnalité que tu ne peux pas vraiment saisir. Tu peux pas dire, ah, moi, j'ai vu Prabhupada, j'ai rencontré Prabhupada, puis j'ai tout compris de Prabhupada. Oui, pour les enseignements, ça pourrait se dire jusqu'à un certain point. Mais comprendre la personnalité complète de Prabhupada, ça, c'est réservé. C'est réservé à, disons, à peu de personnes. Mais Prabhupada lui-même, il avait dit, si vous saviez qui je suis, vous vous évanouiriez. Si on savait qu'est-ce qui est Prabhupada? Qui est-il? On s'évanouirait, Prabhupada dit. On peut juste prendre pour acquis que oui, on a été avec Prabhupada, mais on ne connaît pas en profondeur Prabhupada. Mais c'est déjà beau qu'on ait eu cette miséricorde de Krishna d'être venu en contact avec Srila Prabhupada. Et le contact avec Prabhupada continue toujours aujourd'hui sous la forme de ses livres. Comme Prabhupada dit, l'association d'un pur dévot, c'est Vani et Vapu. Vapu veut dire la présence physique en personne, mais Vani, ça veut dire par ses instructions, par ses enseignements. Il n'y a pas de différence là. C'est absolu. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, on va continuer. Alors, point 1, point 2, on va en lire un bout. C'est assez long. On va en lire un petit bout encore. Virginie, s'il vous plaît, 1.2.
Oui, 1.2. Le Brahman, le Param Atma et Bhagavan sont les trois aspects d'une même vérité. Le point 1.2 est corroboré dans le Srimad Bhagavatam, 1.2.11. Vadanti tat tatvasidas tatvam yaj gyagnam advadyam brahmeti paramatmeti bhagavan itis sabdiyate. Vadanti, ils disent, tat, cela, tatvas vidaha, les âmes érudites, tatvam, la vérité absolue, yat, que, gyagnam, connaissance, Advayam, nom duel, Brahma Iti, connu sous le nom de Brahman, Param Atma Iti, connu sous le nom de Paramatma, Bhagavan Iti, connu sous le nom de Bhagavan, Sab Diate, ainsi entendu. Les doctes et sages spiritualistes qui connaissent la vérité absolue nomment cette substance unique au-delà de toute dualité du nom de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Teneur et portée. La vérité absolue est à la fois sujet et objet. Les deux n'étant alors distingués par aucune différence d'ordre qualitatif. Par suite, le Brahman, le Paramatma et Bhagavan ne sont toujours dans l'ordre qualitatif qu'une seule et même vérité. Cette substance unique, la vérité absolue, est réalisée en tant que le Brahman impersonnel par ceux qui étudient les Upanishads. En tant que le Paramatma localisé par les Hiranyagarbha ou yogis, et en tant que Bhagavan par les Bhakta. Bhagavan, la personne suprême, le Seigneur souverain, représente l'aspect ultime de cette vérité absolue. Le Paramatma constitue une manifestation partielle du Seigneur suprême et le Brahman impersonnel forme l'éclat irradiant de son corps comme les rayons qui émanent du corps du Dieu Soleil. Les étudiants d'intelligence partielle arguent parfois de la supériorité d'un aspect de la vérité absolue, celui qu'ils ont réalisé sur les autres. Les maîtres de la vérité absolue, qui en ont une vision parfaite, savent, eux, que ces trois aspects ne sont que divers angles de vision de l'unique substance. Comme on l'a vu dans le premier sloka, du premier chapitre de cet ouvrage, la vérité suprême et absolue se suffit à elle-même, possède la connaissance parfaite et se trouve libre de toute illusion engendrée par le concept de la relativité. Dans le monde du relatif, le connaissant et le connu sont distincts. Au niveau de la vérité absolue, ils sont une seule et même chose. Dans le monde du relatif, le connaissant est l'âme spirituelle vivante, appartenant à l'énergie supérieure, et le connu est la matière inerte, constituée d'énergie inférieure. Dualité donc entre énergie inférieure et supérieure. Au contraire, dans le royaume absolu, connaissant et connu participent tous deux de l'énergie supérieure. Trois formes d'énergie émanent en fait de la source suprême. Il n'existe aucune différente qualité d'énergie. Le royaume absolu et les êtres vivants appartiennent tous deux à l'énergie supérieure, mais l'univers matériel est constitué d'énergie inférieure. Et lorsque l'être distinct entre au contact de l'énergie inférieure, il tombe sous le coup de l'illusion, laquelle lui fait croire qu'il appartient lui-même à l'énergie inférieure. D'où le concept de la relativité, présent dans l'univers matériel. Mais dans l'absolu, aucun sentiment de distinction n'existe entre le connaissant et le connu, et par suite, tout y est absolu.
Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est intense, hein?
Oui, c'est intense parce qu'en fait, ça sous-entend, enfin, si je comprends, qu'il n'y a pas de différence entre le Brahman impersonnel, le Paramatma et Bhagavan, mais néanmoins,
Mais la différence,
on adorer le Seigneur suprême parce que sinon on est pris au piège en fait. On
arrive. Ça.
Voilà.
Moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de différence en ce qui concerne les jivas, les âmes spirituelles distinctes, d'un point de vue qualitatif. Pas d'un point de vue qualificatif, mais quantitatif. Attends une minute, pas quantitatif. Oui, qualificatif.
Qualitatif.
Mais pas quantitatif.
Exact.
Voilà. De la même nature que Krishna.
C'est comme l'analogie avec la goutte d'eau. Exactement. Et l'océan.
Oui, la goutte d'eau qui a les mêmes qualités que l'océan. Mais
pas en même quantité.
En degré infinitésimal. Alors voilà. Alors, est-ce qu'il y a des... Bon, je pense qu'on va continuer ça une prochaine fois. Pensez-y. Le prochain cours va probablement recommencer le point 1, point 2. Parce que c'est... Je trouve ça intense. C'est intense, les livres de Prabhupada. Et c'est... Wow! C'est quand on lit les livres de Prabhupada, qu'on les lit d'un bloc, un après un, disons, un texte après l'autre, c'est une chose. Mais là, quand on en prend un et on le met en perspective par rapport au même sujet, là, c'est quelque chose, là. Parce que les points, on dirait qu'ils ressortent. Ils méritent plus d'attention. Voilà.
D'accord avec ça.
Ça enlève la brume, les livres de Prabhupada. Ça enlève la brume, je veux dire, qui se fait tous les jours là, dans notre vie. Je veux dire, même juste le mantra, ça enlève la brume.
Ouais.
Tout ce qui est relié à Krishna, ça enlève la brume.
Exactement. Krishna est comme la lumière. Alors le reste, ben, c'est pas la lumière, c'est l'obscurité, là.
Non.
Et d'une façon ou d'une autre, on dépend complètement de la miséricorde de Krishna. Alors, on peut étudier, à un moment donné, il y a un point aussi où on est limité. Et ça prend la grâce de Krishna pour en prendre un petit peu plus à la fois, simplement. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être venu au cours.
Merci à vous,
à tout le monde. Krishna.
Merci.
Hare Krishna.
C'est très apprécié. Merci beaucoup.
Hare Krishna.
Alors voilà,
merci beaucoup à vous.
On va continuer notre fin de semaine. Nous, on a des invités ici, alors on va s'en occuper.
On se voit mercredi.
Ouais, mercredi oui, prochain.
À mercredi.
À mercredi.
Hari Hari Bol.
Hari Krishna, Hari Bol.
Hari
Krishna. Hari Hari Bol.
Hari Hari Bol.
Hari Krishna.
Hari Krishna.
Hari 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 Bol.
Hari Hari Bol.
Jayo. Hari